Salut, salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. C'est la dernière rediff de l'été et aujourd'hui, pas de montage, pas de morceaux choisis mis bout à bout, je vous propose l'intégralité d'un épisode, celui de Laura qui est médecin de famille et qui aurait voulu être danseuse. En tout cas, c'est comme ça que son aventure professionnelle a commencé pour elle. Mais au-delà de la carrière, j'avais envie de parler de l'entrelacement de la vie personnelle dans le boulot. Car dans cet épisode, Laura parle de son retour plus que chaotique au travail quand elle part dans le Grand Nord canadien en mini-avion avec sa fille et ses parents pour être médecin de famille dans un village inuit. Place à notre conversation qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next, que vous pouvez lire par abonnement payant sur Substack. Un grand, grand merci aux abonnés qui rendent ce projet possible. J'espère que ce podcast vous donnera envie d'aller plus loin et de vous abonner dans une formule payante. Rendez-vous sur whatsnextmathilde.com ou dans les notes de ce podcast pour tous les détails pour rejoindre l'aventure et soutenir mon travail. Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez le 6e épisode de What's Next, les trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, je reçois Laura Pinsonneau-Craig qui est médecin à Montréal. Mais Laura, c'est surtout une amie très chère dans mon cœur. Je l'ai rencontrée dans un cours de yoga qui avait lieu à l'époque sur Zoom, en plein cœur de la pandémie. On était toutes les deux enceintes et la prof nous a mises en relation, tout simplement parce qu'on était toutes les deux French. French? French-Canadian? Après la naissance de nos enfants, Laura est devenue mon amie en chair et en os et nous avons passé la première année de vie de nos filles ensemble à se donner force, soutien et aussi une soupape de décompression dans cette première année intense, surtout quand on vit à l'étranger sans trop de relais sur place. Mais tout ça, ma version de l'histoire, je la raconte dans le récit What's Next cette semaine. Rendez-vous sur Substack pour la découvrir. Dans ce podcast, par contre, c'est Laura qui raconte son histoire. La première année avec sa fille, la reprise du travail dans des conditions très, très particulières, mais aussi son parcours professionnel avant d'être médecin. Vous verrez, c'est surprenant. Place à Laura, c'est parti.
Bonsoir Laura, je suis hyper contente de te parler.
Salut Mathilde, moi aussi, vraiment beaucoup.
J'ai donc quelques questions à te poser sur ta première année, la première année avec ta fille et puis sur ton travail. Mais ma toute première question, c'est comment est-ce que tu réponds à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
Maintenant, c'est assez simple. Je suis médecin de famille et puis depuis 2 mois environ, je suis médecin de famille. Facile à expliquer. Je fais de la prise en charge, je fais du bureau, je fais du rendez-vous. Et puis, je travaille dans ce qu'on appelle au Québec un CHSLD. C'est un soin de longue durée pour des patients en perte d'autonomie. Donc, je fais ça une journée, semaine aussi. J'ai quand même 3 jobs différents présentement, mais tous dans le cadre de mon métier de médecin de famille.
Pourquoi tu dis que maintenant, c'est facile à expliquer?
Parce que pendant 3 ans, depuis ma graduation, finalement, j'ai fait ce qu'on appelle du dépannage. Donc, j'allais dépanner dans les milieux où il manque de médecins de famille au Québec. Puis, je me déplaçais de milieu en milieu, mais principalement, j'étais localisée dans le Grand Nord du Québec. Donc, j'allais vraiment dans la pointe du Québec, travailler dans les communautés inuites. Et puis, j'allais faire... principalement de l'urgence ou du sans-rendez-vous dans les communautés mal desservies du Québec. Et puis, c'était un peu plus difficile à décrire parce que c'était pas régulier comme travail. C'était de la médecine de brousse. Là. Il n'y a pas beaucoup de ressources là-bas. On est juste des médecins de famille. Il n'y a pas vraiment de spécialistes. Il n'y a pas vraiment de tests. Et puis, je faisais ça de façon plus sporadique. Avant l'arrivée de ma fille, j'y allais quand même de façon régulière, puis je faisais des longs stretches, donc de 4 à 6 semaines de travail. Puis ensuite, j'avais 1 à 2 mois de pause, ce qui me permettait de profiter de la vie à Boston, où on s'est rencontrés et où j'habitais pendant que je faisais ça. Mais une fois que ma fille est arrivée, ben, on s'est vite rendu compte que ce travail-là de dépannage était beaucoup plus difficile avec un enfant. Aller faire 8 heures de vol pour se rendre, c'est 5 vols souvent pour se rendre dans les petits villages, avec des accompagnateurs, donc j'apportais des grands-parents pour s'occuper de ma fille pendant que je travaillais. Ben, ça amenait son lot d'incertitudes et puis de complications. Voilà, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je fais maintenant, finalement.
T'es presque allé plus vite que la musique, si je puis dire, parce que je voulais te demander justement, je voulais qu'on parle spécifiquement de cette année, de ces quelques mois en fait après la naissance de ta fille. Comment t'as fait pour reprendre le travail? Et en fait, ma question, elle est presque en deux temps. Ma question, c'est surtout comment est-ce que tu avais imaginé les premiers mois avec ta fille, et si tu t'étais dit que tu voulais travailler, et puis comment ça s'est passé en réalité?
Au Québec, on est vraiment chanceux. Je pense que c'est similaire en France, mais on a le droit à un congé de maternité d'environ 1 an.
En
Et
France, je
puis,
pense que c'est beaucoup
non,
moins. Hein.
au Québec, on est vraiment choyé. Par contre, moi, je l'étais un peu moins parce que puisqu'on vivait à Boston, j'ai pas eu le droit au programme québécois de salaire de congé de maternité. Donc, j'ai décidé par moi-même de prendre une année quand même de congé de maternité, mais sans paiement. Donc puisque j'avais fait quand même beaucoup de travail avant, j'avais comme accumulé de l'argent qui me permettait d'aller faire ce congé-là de maternité de 1 an. Et puis j'avais vraiment en tête que une fois cette année de congé de maternité finie, j'allais retourner au travail de dépannage et puis j'allais faire ça à moyen long terme avec ma fille, ce qui allait me permettre de rester à Boston avec mon conjoint, qui, lui, à ce moment-là, entreprenait un postdoc résident d'un programme de 3 ans à Harvard, et puis qui avait potentiellement des chances de rester à Boston pour un métier plus tard. Donc, si moi, ça marchait, ce projet de dépannage, ben, on pourrait rester à plus long terme, parce qu'en réalité, le problème avec être à Boston, c'est que moi, je ne pouvais pas travailler à Boston, même comme médecin de famille. Et puis, en fait, ça ne me tentait pas nécessairement non plus. Puis, le travail de dépannage, j'aimais beaucoup ça. Puis, j'avais vu des gens faire ça avec des enfants. Donc, je me disais, hey, moi aussi, je vais être capable. En fait, est venu le moment du retour de congé maternité. Et puis, c'était en janvier. Et on a décidé que j'allais aller faire un premier stretch de 10 jours dans un petit village qui s'appelle Inukjuak. C'était 3 vols d'avion pour y aller, normalement environ 5 heures de vol d'avion. Et puis, je suis montée avec mes deux parents qui sont tout près à ce moment-là de leurs 70 ans. Et puis, on est montée pour finalement atterrir dans le mauvais village. On est arrivé dans un village où il y avait finalement un logement avec un petit lit de bébé, mais aucun drap, où le seul drap, en fait, dans le logement avait un gros trou dedans. Le lit de ma fille faisait du bruit tellement épouvantable qu'elle s'est réveillée au moins 5 fois dans la nuit en gros pleurs alors que normalement elle faisait ses nuits. Et puis le lendemain, ils nous disent que finalement on peut pas repartir parce que il y a encore trop de blizzards au niveau du village où on doit atterrir. Et puis je leur dis, ben écoutez, il faut absolument que j'y aille. Moi, je suis de garde demain. T'sais, je suis de garde pour 6 villages dans le Grand Nord. Il faut absolument que je décolle. Donc, finalement, ils ont nullisé un vol pour qu'on se rende, mais c'est un mini avion où il y avait 8 passagers, pas d'hôtesse de l'air. En fait, c'est les pilotes qui se retournent puis qui nous disent, si vous avez trop chaud, vous nous le dites. Oui, un vol
Désolée, ça
d'une
me fait
heure, il y avait.
rigoler.
C'était épouvantable. Un vol d'une heure, il y avait tellement de bruit que je pouvais même pas parler à mes parents qui étaient littéralement à côté de moi. Je regardais ma fille qui avait probablement, genre, qui avait même pas de casque d'écoute parce que je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis on atterrit dans ce petit village-là, finalement, après 1 heure de vol, pour arriver dans un village où ça fait au moins 1 mois qu'ils n'ont plus d'eau potable. Et puis nous, on n'a pas eu d'eau pendant 8 jours sur 10. Donc mes parents devaient fondre de la neige pour qu'on puisse avoir de l'eau. Donc bref, ça, c'était juste le à côté du métier. Et puis finalement, en plus, le stretch en tant que tel a été vraiment compliqué. Ma collègue avait le pied cassé, donc il fallait que je sois son taxi. Je ne pouvais pas se déplacer de nuit, donc c'est moi qui prenais ses gardes. J'ai été appelée. Je pense que je n'ai pas dormi aucune nuit de tout le 10 jours. Donc ça a résumé mon premier stretch. Et puis, j'ai fait 2 autres stretches par la suite. Une fois, on a pogné la gastro. Et puis, l'autre fois d'après, mes parents ont eu la COVID juste avant de monter 2 jours avant, donc j'ai dû trouver un plan B Et puis la personne qui devait les remplacer ne pouvait pas rester tout le long. Finalement, mes parents sont venus une fois que la COVID était, t'sais, l'isolation de 10 jours était terminée, mais ils ont été pris dans un autre village à cause encore d'un blizzard. Donc, j'ai dû manquer mes gardes. Et puis, etc., etc. Ce qui fait en sorte que, en trois stretches, je me suis rendu compte que ce projet de travailler avec une petite était probablement non réalisable. Et puis ça prenait même pas en considération le fait que mon conjoint, lui, devait s'éloigner de sa fille pendant, tu sais, 1, 2 semaines. Et puis il trouvait aussi ça difficile, tu sais, quand, à cet âge-là, quand les enfants reviennent après 2 semaines de distance, elle revenait de nos stretches, elle avait arrêté de dire papa, par exemple. Donc pour lui, c'était difficile de se dire, ben, ma fille me reconnaît même pas, tu sais, l'Internet est tellement mauvais qu'on peut pas s'appeler. Alors, moi, disons que ça a comme pété ma balloune en bon québécois.
Tu peux m'expliquer péter ma balloune?
Ben, c'est comme le rêve étant la balloune, et puis
Ah, je
on
vois.
la brise, et puis ça éclate la balloune. Rendu à ce moment, on a eu comme une discussion, en fait, Arthur et moi, mon conjoint et moi, puis on s'est dit que ça marchait pas, qu'il fallait trouver un plan B. On est retombé rapidement sur Terre et puis on s'est rendu compte que finalement notre projet de rester à Boston n'allait pas vraiment marcher. Et puis il fallait que je revienne travailler au Québec comme médecin de famille avec un travail un petit peu plus stable.
C'est fou parce que cette histoire, je la connaissais déjà. Bien sûr, je l'ai vécue. Moi, je l'ai vécue à tes côtés. J'étais là avant, puis après. Et quand tu me le redis, je me dis, mais c'était vraiment intense. C'était vraiment terrible. Enfin, c'est vrai qu'on se dit, ça semble vraiment pas possible en fait de monter dans le Grand Nord avec une petite fille dans ces conditions, quoi.
Ben, ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a qui le font, tu sais. Mais je pense que souvent, les personnes qui le font, c'est qu'ils sont là depuis de nombreuses années à travailler dans ces communautés-là. C'est leur métier depuis, disons, la plupart des personnes que je connaissais, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Il y avait un poste à temps plein. Ils ont le droit de faire rembourser des billets d'avion pour leurs accompagnateurs, alors que moi, c'était pas le cas. Donc, même au niveau monétaire, je veux dire, ça coûtait cher. Les billets d'avion pour se rendre. En fait, dans le Grand Nord, ça s'élève à 4 000 $, juste un billet d'avion pour un accompagnateur. Donc, tu fais le calcul, il faut que ça vaille la peine d'y aller. Donc, je ne sais pas pour comment qu'ils font, mais je sais qu'il y en a qui le font. Mais je dirais que la plupart des médecins, en fait, on se rend compte qu'ils font peut-être une année ou deux, puis par la suite, ils décident de se relocaliser ailleurs au Québec. C'est le cas, en fait, de quelques collègues que j'avais vu qu'ils le faisaient, puis finalement, je me rends compte qu'eux aussi ont décidé de faire un changement de carrière.
Si je reviens sur le choix de passer la première année entière avec ta fille, même si tu n'étais pas payée, est-ce que c'est quelque chose de passer tout ce temps avec elle? C'est quelque chose que tu souhaitais? Et est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas du tout regretté? Il n'y a pas au bout de quelques mois où tu t'es dit, ça y est, c'est temps de revenir au travail? Ou est-ce que tu disais, c'est pas assez, j'aurais pu rester 2 ans avec elle?
Je dirais que un an c'était vraiment génial. Je veux dire, j'ai jamais j'aurais écourté cette période-là. J'ai vraiment adoré. C'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles que l'autre, là. On s'entend. Il y a quand même des journées où tu as l'impression que tu sais pas trop qu'est-ce que tu es en train de faire, puis
Je
tu es
vois
en
pas de
train de
quoi tu
perdre la
parles.
tête un peu. Puis c'est là que ça fait du bien d'avoir une amie à qui aller avec qui ventiler au parc, en l'occurrence Mathilde. Je dirais que après un an, puis le retour au travail, j'avais quand même un peu hâte de retourner, mais pas tant pour retourner au travail, mais plus pour retrouver un équilibre et puis une possibilité de revenir un peu à une normale, entre guillemets, dans le sens de faire quelque chose pour moi. Parce que je trouve que juste être à temps plein avec un enfant, on perd un peu cette notion du moi. Et puis on devient un peu. C'est tellement important, c'est tellement la prunelle de nos yeux, cet enfant, que on dirait qu'on fait tout pour l'enfant. Et puis c'est facile de s'oublier. Donc, de retourner au travail puis d'avoir la routine, ça permet un peu d'avoir ben, un bon 8 heures dans ta journée où finalement tu fais des choses que toi, pas que le travail, c'est toujours quelque chose que tu as envie de faire. Je veux dire, il y a quand même des journées maintenant où je suis comme, ah, j'étais bien quand même en congé de maternité, où je pouvais juste comme m'occuper de ma fille et puis c'est tout. Mais ouais, ça fait du bien quand même de faire quelque chose d'autre de mes journées maintenant.
Justement, tu parles d'équilibre, de retrouver une forme d'équilibre quand tu travailles. Donc, tu dis que ce n'est pas parfait parce que des fois, le travail, ben, ce n'est pas toujours ce que tu as envie de faire. Mais tu en es où de ça, en fait, de cette recherche d'équilibre? Est-ce que, parce qu'il y a certes, il y a le travail, mais il y a aussi la vie à côté, les amis, les sorties, la vie en couple. Est-ce que tu as
Ouais.
l'impression là que tu trouves une sorte d'équilibre ou c'est encore, elle est encore trop petite pour ça ou...
On est en processus. Tu sais, je disais, ça fait 2 mois qu'on est de retour au Québec. Donc, j'ai plus de temps. En fait, j'ai plus un plus grand cercle d'amis que j'avais à Boston. Donc, je vois plus d'amis que je le faisais quand j'étais à Boston. Donc, ça fait quand même du bien. Mais par contre, j'ai pas retrouvé le temps et l'énergie ou les opportunités pour, par exemple, incorporer le sport. Je faisais de la course à pied, j'en fais plus du tout. On en fait un peu la fin de semaine, mais t'sais, courir une fois semaine. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui va devoir s'intégrer plus tard, mais on est tellement en adaptation encore. Ça m'a pris du temps, juste par exemple, réussir à me faire un dîner que je pouvais amener avec moi au travail. Parce que les premiers jours, j'avais pas le temps de dîner et puis j'avais pas de dîner. Donc, je finissais par avoir fini ma journée, puis j'avais pas dîné, puis j'avais un gros mal de tête. Puis, réapprendre à faire la routine avec un enfant en plus qui te permet de fonctionner pour le travail, quelque chose que je faisais avant, mais qui était comme un peu intuitif, mais maintenant qu'il l'est plus, ça a pris du temps. Puis, on est encore là-dedans, juste de réapprendre à, c'est ça, réapprendre à travailler, mais avec un enfant, je veux dire, ma routine du matin est plus la même. Maintenant, il faut que je pense à deux routines. T'sais. J'ai sa routine à elle et puis ma routine. Puis, selon les horaires, des fois, mon conjoint est capable d'aider ou non, mais des fois, par exemple, ce matin, il était au travail à 6h30, donc il n'est pas là pour m'aider avec ma fille, puis c'est moi qui s'occupe de tout, puis il y a d'autres matins où c'est lui qui en fait plus, mais c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation. Donc, c'est comme si le moi, finalement, est encore en création, on va peaufiner ces choses-là. Mais c'est sûr que être revenu au Québec, ça nous a permis, admettons, de juste la famille à côté, ça a fait un gros plus. Puis ça rajoute beaucoup à notre équilibre de vie, de juste pouvoir avoir du temps des fois pour nous. Je veux dire, mon conjoint et moi, on est allés prendre une bière l'autre jour parce que mes parents ont pu, tu sais. En fait, là, c'était sa mère qui est venue puis qui est juste restée pendant que notre fille dormait, alors que quand on était à Boston, ben, il aurait fallu se trouver une gardienne
Oui.
à qui on aurait eu confiance, puis ça coûte de l'argent, puis etc. Mais tu sais, ça ici, c'est plus facile, donc.
Un petit mot de mon sponsor, de mes sponsors. À vrai dire, c'est vous, c'est les lecteurs de What's Next. Parce que What's Next est un podcast, mais c'est aussi et surtout un récit envoyé via une newsletter hebdomadaire. S'abonner au récit, c'est recevoir tous les vendredis un nouvel article dans votre boîte email, le journal de bord de mon questionnement professionnel. Vous avez aussi accès à toutes les archives. Le récit est classé par ordre chronologique, donc c'est facile de s'y repérer. Et puis, s'abonner dans une formule payante, c'est aussi ce qui rend possible ce projet, y compris ce podcast. Si les sujets que j'aborde vous intéressent, vous touchent, vous font sourire, réfléchir, ou même, je sais pas, vous donnent envie de devenir médecin au Québec, eh bien, venez soutenir mon travail en vous abonnant sur la plateforme Substack. Je mets toutes les infos en notes du podcast et sur le compte Instagram What's Next Mathilde.
Je voulais en fait revenir sur le début de ta carrière parce que tu as d'abord été danseuse professionnelle et puis tu es devenue médecin. Ça semble pas très linéaire tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je pense que mon parcours a juste jamais été linéaire. Au Québec, on a ce qu'on appelle le cégep, qui est une. Dans le fond, c'est qu'une fois qu'on finit le secondaire, on a 2 années pré-universitaires qu'on appelle le cégep, qui te permettent de faire un peu sciences de base, dans le but aussi de comme avoir ces 2 années-là pour réfléchir un peu à ton avenir puis ton orientation professionnelle. Quand on finit le secondaire, tu choisis un peu est-ce que tu vas aller en sciences humaines, est-ce que tu vas aller en sciences nature ou en sciences santé. Il y en a qui décident aussi d'aller faire d'autres choses en musique, etc. Mais en général, c'est souvent les 2 branches qu'on choisit. Et puis là, moi, je m'étais orientée en sciences santé. J'ai toujours été assez performante à l'école. Donc, j'ai performé. Puis le monde, il me disait, ben, tu vas rentrer en médecine alors. Ça me dérangeait un peu que le monde disait que parce que j'avais des bonnes notes, j'allais nécessairement aller en médecine. Alors moi, je m'étais dit dès le départ que je voulais pas rentrer en médecine. Et puis en fait, j'ai décidé de m'orienter en environnement. Et je suis allée faire un. Ben, en fait, j'ai commencé un baccalauréat en environnement à l'Université McGill. Et puis, entre-temps, en parallèle, j'avais fait au secondaire de la danse. Je faisais J'étais en concentration de danse. Donc, en fait, j'avais un cours de danse par jour au secondaire. Je faisais aussi en parascolaire du patinage artistique. Et puis, au cégep, j'avais arrêté la danse, mais je continuais le patinage artistique. Et puis, quand j'ai décidé de finir mon patinage artistique, j'ai décidé de me remettre à la danse. Et puis, j'avais trouvé ces cours qu'on appelait des cours préparatoires à l'école de danse professionnelle, qui étaient 9 heures par semaine de danse contemporaine. Donc, j'ai commencé à faire ça les soirs pendant que je commençais mon baccalauréat en environnement. À la fin de cette année de cours préparatoires, la plupart de mes amis du cours ont décidé d'auditionner pour l'école de danse contemporaine de Montréal, qui est une école de danse qui forme des danseurs professionnels. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je vais auditionner moi aussi.
T'as quel âge quand tu auditionnes?
J'ai 21 ans. Ben, en fait, je suis rentrée à 21 ans, alors je devais avoir 20 ans. Je suis rentrée, mais sur la peau des fesses. Je suis la dernière qui a été acceptée. J'étais sur la liste d'attente et puis on m'appelle au milieu de l'été, à quelques semaines à peine du début de l'année, pour me dire que finalement, ils ont une place pour moi. Et puis, je savais pas quoi faire, en fait. Je me suis dit. Rendu là, j'avais perdu espoir. Moi, je me disais, c'est sûr que je rentrerai pas. Puis j'en ai parlé longtemps avec ma mère. Puis finalement, elle était comme, tu sais, ton corps te le permet en ce moment, tu es jeune maintenant. Puis tu t'es toujours dit, pendant que tu étais au secondaire, j'avais eu cette réflexion-là, est-ce que je veux faire de la danse plus tard? Parce que j'aimais ça. Après le secondaire, j'avais dit, oh non, finalement, je vais faire des sciences. Puis c'était tout. Alors, elle était comme, mais pourquoi tu n'essayes pas? Alors, je suis rentrée à l'école de danse me disant, ben, je vais essayer. C'était pas comme. Ah, c'est toujours ce que j'ai rêvé de faire, c'est ça ma voie. Tu sais, c'était un peu comme je vais essayer, je vais faire une année, si j'aime pas ça, je vais lâcher, puis je ferai autre chose. T'sais, on voit dans mon parcours déjà que je suivais un peu la voie qui se présentait devant moi, puis si ça se présentait, j'y allais, puis si ça se présentait pas, tant pis. T'sais, c'était un peu comme ça que j'abordais la chose. Donc, je suis rentrée dans l'école. J'ai fait ma première année, j'ai aimé ça. J'ai fait ma deuxième année, j'ai décidé de finir le programme et puis de faire mes 3 ans. Dès la première année, on avait des cours d'anatomie. Il fallait qu'on fasse des projets sur des pathologies des danseurs. Et puis moi, je tripais. Puis mes amis ont commencé à m'appeler la médecin, la docteur, parce que je lisais là-dessus, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis je voulais toujours, tu sais, en savoir davantage. Et puis en même temps, j'ai eu des décès dans la famille ou des personnes qui ont eu des problèmes de santé, des AVC, des cancers, etc., etc. Puis ça a fait en sorte que j'ai comme fait 1 + 1, puis je me suis dit, ben peut-être que finalement j'aimerais ça aussi, tu sais, m'essayer en médecine. Alors j'ai décidé d'appliquer dans le programme de médecine dans une université seulement parce que, en fait, les autres, j'étais pas éligible vu mon parcours atypique. Et puis finalement, à la fin de mes 3 ans, j'ai été acceptée à l'Université de Sherbrooke en médecine. Et puis, je me suis posé la question si je voulais déménager parce que Sherbrooke, c'est à 2 heures de Montréal. C'est pas de là que je suis. À ce moment-là, c'était juste mon copain, mais mon conjoint maintenant, il était à Montréal. Lui, il serait pas venu avec moi à Sherbrooke. Puis, j'étais juste, ben, est-ce que je le fais ou non? Ben, je me suis dit, ben, j'ai été acceptée, pourquoi pas? C'était un peu la même réflexion, en fait, que la danse, c'était. Même si c'est pas linéaire, à chaque fois, c'était comme si quelque chose se présentait à moi. La porte était ouverte, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? C'était un peu comme ça que je le voyais.
Mais est-ce que c'était quand même difficile de renoncer à la danse ou tu disais juste, bon, j'avance, maintenant je passe à autre chose?
Ça a été difficile, mais pas difficile en même temps, parce qu'en fait, il y avait 2 choses. Une chose, c'est que j'avais Depuis le début, j'ai toujours eu un peu des problèmes de dos. Depuis l'âge de 9 ans, en fait, j'ai des douleurs au dos. Puis quand je faisais la danse à temps plein, j'ai eu deux épisodes où j'ai dû quand même arrêter de danser parce que j'avais des douleurs importantes au dos. Puis tu sais, finalement, les investigations étaient négatives, il n'y avait rien. C'était juste probablement un peu de surmenage. Puis, mais reste que pour moi, mon dos était fragile. Pour la vie d'un danseur, c'est un métier difficile sur le corps. C'est pas quelque chose que tu fais de toute façon à long terme. La plupart des gens finissent à 30 quelques ans, puis leur corps est fini. T'sais. Moi, j'étais comme je commence déjà avec une dette sur mon corps. Mon corps est déjà pas comme celui de à côté. T'sais. Mes amis qui étaient capables de faire n'importe quoi avec leur corps, le mien n'était pas capable. Alors, j'avais déjà cette réflexion-là, mais c'est sûr que en sortant de l'école, j'avais fait une audition, mais j'avais été acceptée pour un projet qui était pour les finissants. Puis ça m'avait comme donné un peu un espoir. Je me disais, ah, ben, finalement, tu sais, ils voient quelque chose en moi parce que j'avais été acceptée parmi quand même plusieurs candidats. En fait, c'était une compagnie qui était un peu plus théâtrale. Donc, tu sais, ça allait chercher mes forces, en fait, dans le programme de danse contemporaine. Parce que la danse contemporaine, comme je sais pas si tu le sais, mais c'est pas juste la technique, il y a aussi beaucoup de l'interprétation, puis des fois c'est un peu théâtral et un peu weird, entre guillemets. C'est pas toujours très droit, c'est pas du ballet, tu sais. Donc cette compagnie-là m'avait pris, mais finalement, parce que j'ai été acceptée en médecine, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit, ben, tu sais, c'est fait pour être un tremplin pour les finissants, pour les lancer vraiment dans leur vie professionnelle. Donc, si toi, tu veux pas avoir de vie professionnelle parce que tu rentres en médecine, on va offrir ce tremplin-là à quelqu'un d'autre. Puis, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je me disais, ben, tu sais, j'ai travaillé fort pour ça, tu sais, j'aurais voulu le faire le projet. Puis, après ça, je me suis toujours questionnée, tu sais, finalement, parce qu'eux, ils avaient vu quelque chose en moi, est-ce que j'aurais pu, tu sais, est-ce que j'aurais aimé ça, puis est-ce que j'aurais pu trouver ma niche? T'sais, oui, mon corps n'était pas capable de faire certaines choses, mais il y avait certaines choses que j'étais capable de faire. Puis vraisemblablement, il y avait des personnes qui avaient vu ça en moi. J'ai rapidement quand même tourné la page. C'est pas comme si... J'ai voulu continuer à danser. Quand j'ai commencé la médecine, je faisais quand même des cours de temps en temps, mais c'est sûr que c'était difficile avec les études qui étaient très exigeantes. Donc rapidement, mon corps a comme... Tu sais, j'ai perdu mon équilibre, j'ai perdu ma souplesse. Alors, tu sais, quand j'allais dans les cours, je me sentais de moins en moins bonne. Alors, rapidement, j'ai comme moins en moins fait de danse. Et puis, finalement, tu sais, maintenant, je danse plus du tout. Tu sais, je danse dans mon salon, mais on s'entend que c'est pas... je fais du petit doigt avec ma fille, là, mais tu sais... ouais, j'ai quand même rapidement tourné la page.
Parce que c'est vrai qu'en plus, enfin, tourner la page de la danse pour faire des études de médecine, c'est des études longues, c'est pas des études très faciles. Donc tu t'engages dans quelque chose qui est lourd quand même, quoi. Donc tu fais toutes ces années de médecine et puis tu
Ouais, puis
deviens
ça a été
médecin.
difficile quand même. Ça a été difficile parce que, tu sais, de passer de 3 ans où je faisais 40 heures semaine d'activité physique et plus, à être assise et puis lire et puis réapprendre à apprendre de cette façon-là, tu sais, apprendre de façon intellectuelle uniquement et non pas kinesthésique, ça a été vraiment difficile. Et puis j'ai quand même frappé un mur, tu sais, je suis allée voir un psychologue, j'ai clairement eu un genre de petit trouble d'adaptation, tu sais, où ça allait pas super, tu sais, j'ai déménagé dans une nouvelle ville, je connaissais personne, j'étais tout seul, je commençais la médecine, c'était des études difficiles, puis ça a été long à m'adapter, mais finalement, c'est ça, j'ai pris le beat, et puis c'était 6 ans d'études. Pour la médecine de famille au Québec, c'est entre 6 et 7 ans, là, selon l'université à laquelle où on va. Et puis, donc, ça a été quand même 6 ans d'études, mais qui ont passé vite, hein. C'est rapide, finalement.
Est-ce que c'est un métier qui te plaît aujourd'hui?
Oui, c'est un métier qui me plaît, j'aime ça, mais il y a des jours où je me demande qu'est-ce que je fais. Des jours que je trouve que la pression est très élevée. C'est un métier demandant. Je travaille le soir souvent. Je continue à faire de la formation continue. Donc, j'étudie beaucoup le soir. Puis des fois, je me demande, est-ce qu'au niveau de la qualité de vie, est-ce que c'était le bon choix? Parce que des fois, je vois d'autres amis Eux, dès qu'ils ont fini le travail, c'est fini. T'sais, ils font leur 9 à 5, puis ils sont rentrés et c'est fini. Moi, c'est clairement pas ça, mais c'est sûr que je me considère encore en début de pratique, d'autant plus que j'ai fait 3 ans, dont un an et demi de congé de maternité, et puis de un an et demi où je ne travaillais pas à temps plein. Donc, depuis ma graduation, donc j'ai gradué il y a 3 ans. Donc, je suis clairement en début de pratique, donc j'ai beaucoup de choses à rattraper, puis beaucoup de choses à apprendre. C'est stimulant. C'est un travail qui est très gratifiant. Comme je disais, quand on fait quelque chose, puis qu'on a l'impression que les patients aiment ça, puis ils sont satisfaits, ou on a réussi à changer le cours d'une vie, ou tu sais, il y en a pour qui c'est de poser le bon diagnostic, c'est offrir le bon traitement, ou juste être une oreille attentive, quelque chose que le patient a des besoins. Donc, c'est très gratifiant, mais des fois, c'est très frustrant aussi, là. C'est pas toujours très gratifiant, c'est parfois frustrant aussi. Mais oui, je pense quand même que je suis dans le bon métier.
Ce serait quoi pour toi une vie professionnelle réussie? Tu pourrais te retourner dans 10 ans et tu dirais c'était une bonne décennie professionnellement.
Ben en fait, là, je suis encore en processus de réorientation, pas de carrière, là, mais réorientation de clinique. Donc, trouver la place où je vais être comme à temps plein. Puis, ce que je souhaiterais, c'est de travailler dans une clinique communautaire, on appelle ici un CLSC, et puis continuer à faire les soins à longue durée. Mais quand je vais avoir trouvé ça, puis je vais pouvoir avoir le temps que je veux avec les patients, d'avoir justement. Je pense de trouver cet équilibre-là un peu de carrière, puis la vie de maman et puis de conjointe, puis de. Ouais. D'avoir l'équilibre de vie, là, famille, travail. Quand je vais avoir réussi à trouver ça, je vais être satisfaite. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est clairement pas là où je suis. Mais tu sais, ça fait 2 mois. Il faut que je me donne du temps.
Tu voulais faire quoi quand tu étais petite?
Pour vrai, je ne sais pas. C'est pas. J'ai pas été quelqu'un. J'ai jamais été. Je pense que j'ai jamais su ce que je voulais faire. Puis c'est pour ça aussi que je pense que je me suis orientée en médecine de famille. Parce que, tu sais, finalement, je suis pas quelqu'un qui, comme quand j'étais petite, je voulais devenir X, là. C'était pas précis. Moi, j'étais juste comme. Je veux être bien. Je veux pas être infirmière. Ça, je savais. Je voulais pas être infirmière.
Pourquoi pas infirmière?
Parce que ma mère était infirmière, puis je trouvais que. Elle manquait que ses collègues et puis qu'on manquait de respect envers les infirmières. Puis je m'étais dit, je préférais être quelqu'un qui respecte les infirmières, mais j'ai pas envie d'avoir un job où on manque de respect envers moi. C'est un peu chiant, mais bref, oui, je voulais.
C'est drôle parce que ma mère est prof et elle m'a souvent découragée à devenir prof, alors que c'est quelque chose qui m'aurait, je pense, qui aurait pu me plaire. Mais elle m'a toujours dit que c'était un métier très dur et justement, voilà, pas très respecté. Alors que moi, je trouve que c'est quand même un super job, quoi.
Ben ouais, ben même chose, je pense. Mais tu vois, tu sais, finalement, infirmière, je suis quand même allée dans le milieu de la santé. Et puis, c'est ça, moi, je respecte beaucoup les infirmières. Je trouve que c'est mes bras droits. Puis j'espère qu'ils sentent que je les respecte parce que, je veux dire, sans eux, qu'est-ce qu'on ferait, là?
La vraie dernière question, c'est quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce que vous venez à
Oh!
Boston?
Ben oui, mais de un, vous êtes les bienvenus n'importe quand à Montréal. Et puis, ben, il faut vraiment qu'on prenne des vacances et puis qu'on vienne à Boston parce qu'il commence à faire froid déjà à Montréal. J'ai hâte.
Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps sur ton temps précieux sur la soirée. Et puis, à très bientôt.
Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt.
Je vous avais déjà présenté Laura, en creux, dans une newsletter de juillet 2022 envoyée via mon blog, le blog de Mathilde. La newsletter s'appelait « Friends » parce que j'aime bien les titres en anglais, le franglais c'est ma deuxième langue. Je parlais du fait d'avoir des amis quand on vit à l'étranger et que ces amis partent. Surtout dans une ville comme Boston, une grande ville universitaire dans laquelle les gens vont et viennent pour avancer leur carrière, sont de passage et puis repartent. Alors Laura et moi, c'est une histoire d'amitié à l'étranger qui démarre à Boston. Et une fois que j'ai réécouté cet entretien, je me suis dit que ça aurait pu être une question que je lui ai pas posée, lui demander ce qu'elle avait aimé de cette vie à Boston, de ce qui lui manquait aujourd'hui. Ce sera un sujet pour une autre fois, la prochaine fois qu'on se verra à Montréal ou ici à Boston.
Vous pouvez lire d'ailleurs cette newsletter, Friends. Elle est encore accessible gratuitement sur la newsletter du blog. Elle est dispo sur leblogdemathilde.substack.com. Et oui, je vais bien finir par vous faire venir sur Substack. Ce que je retiens de ma conversation avec Laura dans le cadre de ma réflexion What's Next, c'est l'équilibre après l'arrivée d'un enfant, le chaos organisé entre la vie professionnelle et tout le reste. Eh bien, ça prend du temps. Ça, je dois vraiment me le répéter souvent, car la patience, c'est pas mon fort. Donc d'avoir des expériences d'autres personnes, d'autres amis qui vivent la même chose que moi, c'est vraiment un bon reminder. Dans ma conversation avec Laura, je retiendrai en fait tout simplement son récit incroyable, ses aventures dans les terres inuites, dans un mini avion après un blizzard avec sa fille et ses parents. Ça me fait relativiser mon trajet un peu catastrophique en poussette pour aller chez la pédiatre à 20 minutes de chez moi. C'était incroyable. Bon, on le sait, ou en tout cas, faut se le répéter, le pire ennemi des parents, c'est pas le manque de sommeil. Non, c'est la comparaison entre nous. C'est une cousine qui me l'a dit. Salut Anne-Charlotte. C'est pas de moi. Donc je vais pas comparer mes difficultés ou ma première année avec ma fille à celle de Laura ou de toute autre amie, de toute personne. Et je vais apprécier, au contraire, son récit pour ce qu'il est, son histoire de vie, sa première année avec sa fille et la reprise du travail à sa façon. Dans mes DM Instagram, vous répondez cette semaine à la question « Comment s'est passée la reprise du travail après l'arrivée de votre premier enfant ?»
Hello Mathilde, alors moi c'est Célina, j'ai 33 ans et j'habite près de Nantes. Mon métier c'est content manager, donc je rédige des contenus pour du marketing. Et j'ai repris le travail après bébé en novembre de l'année dernière et mon petit garçon avait alors 3 mois. Je dirais du retour au travail après bébé que c'était difficile, tant physiquement que psychologiquement. Le premier jour, j'étais là sans être là. J'étais pas du tout à l'aise physiquement parce que j'étais toute serrée dans mon jean de grossesse. J'avais mal parce que j'allaitais encore un peu. Et puis, tout avait changé. Et moi et au travail, c'était vraiment bizarre. J'étais contente de retrouver des collègues, mais j'ai eu le droit aussi à des commentaires pas très bienveillants qui m'ont un petit peu marquée. Et puis ça s'est pas arrangé les semaines suivantes. Je me suis rendu compte que j'avais perdu pas mal de responsabilités dans mon boulot et j'en parlais et ça bougeait pas. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'en avais marre de rentrer le soir en pleurant. Donc j'ai démissionné. Voilà, et je me lance dans le freelance. À très bientôt et merci pour tout.
Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses à la question suivante. Quel est votre usage d'Instagram ? Est-ce que vous scrollez dans l'anonymat le plus complet ? Est-ce que vous likez, vous partagez, vous DMez ? Est-ce que c'est un outil professionnel ? Ou voire même, est-ce que c'est un outil de développement personnel ? J'attends vos témoignages sur Instagram. Ne soyez pas timide ! Un message vocal sur mon compte What's Next Mathilde et hop, envoyé. Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Si cet épisode vous a intéressé et que vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, eh bien abonnez-vous, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute, 5 de préférence. See you dans 2 vendredis pour un prochain épisode et tous les vendredis pour un nouveau récit sur What's Next. Pour vous abonner et soutenir mon travail, rendez-vous sur whatsnextmathilde.com. Bye bye! What's Next, la newsletter revient début septembre. Elle est disponible sur whatsnextmathilde.substack.com et je vous attends là-bas pour découvrir la nouvelle formule, une formule rafraîchie de la newsletter. À très bientôt.